Vous écoutez France Culture.
Réplique, les bienveillantes, retour sur un événement littéraire avec Nathalie Chrome et Michel Terechenko. Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. L'homme qui s'exprime ainsi est nazi. Il s'appelle Maximilien Haue et le « ça » qu'il raconte en 900 pages compactes, c'est l'extermination des Juifs par le régime hitlérien entre 1941 et 1945. Pour ce livre, hors norme, Jonathan Little a obtenu le prix de l'Académie française et le prix Goncourt. 600 000 exemplaires ont déjà été vendus. Bref, les bienveillantes et sans contestation possible, l'événement littéraire de l'année 2006 en France. Mais est-ce plus qu'un événement? Est-ce une œuvre littéraire? Doit-on placer les bienveillantes sous l'égide d'Eschyle ou l'inscrire, comme nous y sommes instamment conviés, dans la lignée de Vie et Destin de Vassili Grossman? J'avoue que sortant de la lecture de ce roman, fourbu, interloqué, perplexe, je ne sais comment répondre à cette question. Je ne sais quel parti prendre. J'ai donc invité Nathalie Chrome, qui est journaliste littéraire à Télérama, et Michel Terechenko, qui a publié l'année dernière, aux éditions La Découverte, un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien, à m'aider à y voir clair. Et je leur demanderai d'abord, tout simplement, quelle impression a produite et laisser en eux la lecture de ce roman phénomène. Nathalie Chrome.
Je reprendrai, je pense, le même terme que vous avez employé dans votre présentation. C'est vrai que l'impression immédiate d'être face à un roman hors norme, que personnellement je ne qualifierais pas forcément de chef-d'œuvre, parce que c'est un livre que j'ai lu deux fois, et je pense que j'en ai pas fini avec ce livre. Une impression d'emblée de puissance romanesque, quand même, puisqu'on parle d'œuvre. Pas du tout un sentiment d'hypnose ou de fascination, pas du tout le sentiment de quelque chose de malsain ou de complaisant. Certainement pas un livre qu'on peut envisager d'aimer, en ce sens, enfin, comme on peut mettre un livre sur sa table de chevet ou dans son Saint-Dessin, dans sa bibliothèque. Un livre qu'on lit une fois et dont on sait effectivement qu'on n'en a pas fini avec lui.
Mais quand vous dites pas forcément un chef-d'œuvre, est-ce une réticence ou est-ce parce que ce livre est inclassable? Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle de l'extermination des Juifs, mais là, nous la voyons au travers du regard et surtout de la parole du bourreau. Alors, est-ce cette gêne qui vous retient justement de parler de chef-d'œuvre, alors que par exemple Semprun lui a dit que c'était peut-être un des livres les plus importants du siècle à venir. Donc il n'a pas du tout mégoté, il n'a pas marchandé son enthousiasme. Alors pourquoi, y a-t-il une réticence ou simplement une difficulté à classer cet ouvrage dans ce
Je pense qu'il y a forcément, quand on s'empare de ce livre, du fait de son sujet, je pense qu'on est, on sait que c'est un sujet dangereux. On sait que c'est un sujet où, enfin, je pense qu'on va en reparler, où, sur lequel on ne s'aventure pas comme ça, sans méfiance, sans réticence, sans interrogation éthique, morale, autant qu'esthétique. Et donc, je pense que c'est un peu cela, la réticence à parler de chef-d'œuvre, outre le fait, effectivement, que je pense que quand on est un lecteur, on sait que la valeur d'une œuvre s'évalue aussi sur une certaine durée, plus que dans le moment, voilà.
Oui,
dans le moment, le premier moment de la lecture, on ne sait pas, on, on, on revient sur sa lecture.
Mais en tout cas, vous n'êtes pas choqué par son succès, ni par les deux prix littéraires qu'il a obtenus. Il y a une année, il n'y a eu que deux, mais il aurait pu les avoir tous les autres. Je sais que le prix Fémina, les femmes, les dames du Fémina, souhaitaient décerner à un moment donné leur prix à Little, et qu'elles ont subi la pression du Goncourt, car leur prix intervenait avant. Après, il y a eu un autre incident au Fémina, sur lequel nous n'avons pas à revenir, mais si vous voulez, là, il y a eu une ferveur générale. Et cela ne vous choque pas, cela vous paraît explicable et peut-être légitime.
Je ne sais pas si je me l'explique entièrement, notamment le succès public, hein, les ventes en librairie, sur lesquelles on écrit beaucoup, on émet des hypothèses. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement conclure. Effectivement, il y a plusieurs pistes de réflexion, mais ça ne me choque pas du tout, parce que je pense qu'effectivement, c'est un livre hors du commun. Et moi, enfin, en 15 ans de journalisme littéraire, c'est sans doute, au moins en littérature française, mais peut-être de façon plus générale, le livre qui m'a le plus frappé par son caractère extraordinaire, au sens non ordinaire.
Voilà, bien. Michel Terechenko.
Bon, moi, ma position est tout de même beaucoup plus réservée. Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si c'est une œuvre ou si c'est un, et encore moins sur la question de savoir si c'est un chef-d'œuvre. On discutera à l'infini et ce sont souvent des arguments subjectifs. Moi, il y a un certain nombre de choses qui me gênent profondément dans cet ouvrage. Mais avant de dire cela, je crois que ce qui est évidemment saisissant dans ce livre, c'est que d'abord, effectivement, il donne la parole à un bourreau. Alors même que l'on admet que les bourreaux, d'une manière générale, ne parlent pas. Bon. Et ça, c'était évidemment tout à fait important au moment où la parole est le plus souvent donnée aux victimes. Et il y a énormément d'ouvrages, notamment dans la littérature concentrationnaire, de ceux qui ont été des témoins. Il y a le travail des témoins, il y a les récits des témoins, il y a le travail des historiens, et puis il y a la question du romancier face à cette question. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans cet ouvrage, c'est une série d'arguments. Tout d'abord, je trouve qu'il y a une très grande compilation historique. Il y a une très grande érudition, une science historique. Les historiens ont pu contester certains aspects, mais ce n'est pas le point important. Il y a une très grande compilation historique. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de gratuité, de quelque chose qui relève de la gratuité, d'une obscénité qui n'est pas toujours nécessaire, que je ne crois du reste pas du tout nécessaire, des aspects sur l'homosexualité. Pour le dire plus grièvement, je trouve que c'est un livre qui est bourré de clichés. Mmh. Et au fond, comme si l'on voulait parler du bourreau avec ce mélange d'Anna Arendt, de Sade et de Genette.
Alors oui, Anna Arendt, parce que nous voyons comment la machine fonctionne, il est à la fois un agent et un témoin. Sade et Genette, parce que nous avons un grand nombre de détails biographiques sur ce Maximilien Haüy. Nous savons qu'il y a eu un inceste avec sa sœur, qui l'a beaucoup marqué, c'est l'amour de sa vie, et qu'il est, pour le reste, homosexuel. Donc c'est vrai, et d'ailleurs, dans la présentation qui est donnée dans la quatrième de couverture, j'ai cité la référence à Vassili Grossman, mais il y a aussi une autre référence, et d'ailleurs, elle ne me semble pas tout à fait compatible l'une et l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est Les damnés de Visconti. Et on peut se demander d'ailleurs si le roman n'hésite pas entre Grossman et Visconti, parce qu'il emboîte une réflexion sur le fonctionnalisme, le rationalisme de l'extermination, et une analyse psychologique et sexuelle du mal comme perversion. Alors le mal comme rationalité folle et le mal comme perversion, en effet, on peut penser qu'il est difficile de les réunir ensemble. En tout cas, c'est la tentative qu'il a faite, Michel Terechenko.
Oui, bon, ce sentiment de gratuité qui réapparaît à plusieurs endroits, on pourrait citer des passages, bon, je ne vais pas le faire maintenant, d'une compilation historique que je trouve extrêmement laborieuse, d'un ouvrage qui est extrêmement long, dont je ne suis pas sûr que tous ceux qui l'ont acheté l'ont véritablement lu. Et puis, mais quelque chose qui va plus au fond, et au-delà de la discussion sur ses qualités, etc., qui est le profond sentiment de malaise. Mmh. Un profond sentiment de malaise à la lecture de ce livre, mais sur des raisons qui ne tiennent pas simplement à ses qualités ou aux défauts que l'on peut mettre, mais à la façon dont il traite le sujet. Et
qu'est-ce que vous voulez dire ? Pourquoi ? Pourquoi cela inspire un malaise ? On ne peut pas dire non plus qu'il y ait la moindre sympathie de l'auteur pour le narrateur. Mais le narrateur, en effet, est en première ligne. Donc, il nous dit des choses avec une crudité tout à fait effrayante. Est-ce cela qui provoque en vous le malaise ?
Non.
On voit le meurtre de masse en train de se faire, en Ukraine notamment.
Bon, d'abord sur ce sujet, il y a toutes sortes d'ouvrages historiques que l'on peut lire, qui sont tout à fait remarquables et admirables, que ce soit les travaux de Hilberg, que ce soit les travaux de Christopher Browning, etc. Mais justement, je viens de parler de Hilberg. Et Hilberg, dans La politique de la mémoire, dit quelque chose qui, à mon avis, s'applique tout à fait à ce livre de Little. Il écrit ceci, lorsqu'il parle d'un certain nombre de livres et de romans qui ont été qui traitent de la question de la Shoah, « Si les scénarios peu respectueux des faits sont assez fréquents, le style pompier sévit avec une rare exubérance. » Et un peu plus loin, il parle de ces philistins qui ont investi ma discipline, donc d'historien, « les lieux communs, platitudes et clichés me cernent. » Il me semble que